Bonsoir à toutes, puisque notre public est essentiellement féminin ce soir. Je me réjouis de vous accueillir et d'accueillir Michel Boivin, que je vais présenter dans quelques instants. La conférence de ce soir s'inscrit dans un cycle. Vous trouverez des papiers à l'entrée de cet amphithéâtre. Le cycle de cette année s'intitule « Prêcher et convaincre en contexte musulman ». Il est organisé par l'Institut d'études de l'islam et des sociétés du monde musulman. Et nous remercions la BULAC de nous accueillir, comme chaque mois, pour cette conférence mensuelle du cycle. Les trois premières conférences ont eu lieu depuis le mois d'octobre. La première, celle de Mohamed Ali Amir Moedzi, concernait le texte coranique et sa réception. La conférence était intitulée « La naissance de l'islam, convaincre entre apocalypse, conquête et empire ». Puis nous avons eu une intervention de Pascal Burezi, médiéviste, sur la cause almohade, convertir les juifs, les chrétiens et les musulmans au monothéisme durant précisément l'ère almohade. La dernière fois, le 6 décembre, nous avons eu l'intervention d'Élise Voguet en nous déplaçant un peu géographiquement sur la communauté juive du Touat et la propagande d'El Marili à l'encontre de cette communauté juive du Touat au XVe siècle. Et nous nous déplaçons vers l'extrême-orient, ou une forme d'extrême-orient, enfin ça dépend dans quel sens on part du point de vue de l'espace, on peut être à l'extrême-occident aussi, au Pakistan et au Sindh plus exactement, en nous déplaçant également dans le temps et en passant du XVe siècle au XIXe siècle, avec cette intervention de Michel Boivin, poussée et eux vers le paradis, une perspective historique sur les débats relatifs à la conversion dans le Sindh, dans le Pakistan actuel. Alors c'est un espace que Michel Boivin connaît bien. Si vous connaissez ses travaux, il a travaillé sur la manière dont l'imam des chiites ismaéliens chassés de Perse a pris le contrôle de la caste des Rojas dans le Sindh au XIXe siècle, et je suppose qu'il en évoquera ce sujet ce soir. Michel Boivin est directeur de recherche au CNRS, dans un centre qui a une nouvelle appellation depuis avant-hier, le Centre d'études sud-asiatiques et himalayennes, le CESA, qui est issu de la rencontre du CIEAS, le Centre d'études de l'Inde et de l'Asie du Sud, et du Centre d'études himalayennes. Par sa formation, Michel Boivin combine des approches historiques, anthropologiques et ethnologiques. Ses travaux portent principalement sur différentes communautés musulmanes, sunnites et chiites, dans un espace qui est celui du sous-continent indien, pendant la période coloniale et après les indépendances. Et à travers l'étude de la culture matérielle, de l'iconographie, des objets rituels, il s'intéresse aussi aux communautés hindoues et sikhs. Il a dirigé à l'EHESS, un séminaire intitulé « Histoire et anthropologie des sociétés musulmanes, culture matérielle et pratiques dévotionnelles en Asie du Sud et au-delà ». Et si je ne me trompe pas, cette année, il dirige le séminaire « Autorité et transmission du savoir à travers les nouvelles formes de médiatisation des religions en Asie du Sud ». Parmi ces travaux, je vous signale quatre ouvrages qui sont susceptibles de vous intéresser. D'abord, puisqu'il y a des étudiantes ici, un que sais-je, les que sais-je sont toujours précieux pour préparer des partiels. Histoire de l'Inde, donc paru dans la question que sais-je en 2021, donc c'est sans doute le plus récent, peut-être il y en a un ouvrage après.
C'est la septième édition, il va être...
Mais c'est une réédition augmentée.
Oui,
voilà. Mise à jour. Une réédition mise à jour. Voilà, nous avons des lecteurs, des lectrices.
Il y a de très bonnes étudiantes.
Puis... deux ouvrages en langue anglaise, The Sufi Paradigm and the Makings of a Vernacular Knowledge in Colonial India, The Case of Sindh, 1851-1929, et puis en 2019, l'année précédente, The Hindu Sufis of South Asia. En 2015, il a publié aux éditions Téraèdre un ouvrage intitulé, une monographie intitulée Le Pakistan et l'Islam, anthropologie d'une république islamique. Nous sommes ravis de l'accueillir à l'ISM, moi tout particulièrement, puisque je sais qu'il est intervenu auparavant lorsqu'il y avait d'autres directeurs ou directrices à la tête de l'Institut, et c'est la première fois que je rencontre Michel Boivin, j'en suis très honoré. Je lui laisse tout de suite la parole.
Bonsoir, merci beaucoup pour l'invitation et la présentation. Donc, c'est effectivement la première session de cette nouvelle année 2023 dans ce cycle de conférences publiques « Prêcher et convaincre en contexte musulman ». Et je, comme vous voyez dans le titre, je vais vous parler des débats relatifs à la conversion dans le Sindh au Pakistan. Mais comme vous le voyez, j'ai précisé dans le cadre d'une perspective historique, parce que même si la plus grande partie de mon propos effectivement portera sur la période en fait actuelle, bon, étant donné l'importance de ces débats depuis fort longtemps, je donnerai une contextualisation historique. Pour ce qui est de la première partie du titre, donc en fait je l'ai repris, ce titre, d'un documentaire réalisé par un anthropologue autrichien, mais néanmoins basé à Berlin, qui s'appelle, je vais en reparler, hein, qui s'appelle Jürgen Schaffleschner, et donc il a réalisé un documentaire, c'est en anglais, Thrust into Heaven, donc que j'ai traduit par Pousser vers le paradis. Dans le documentaire, il met pas de point d'interrogation, j'ai seulement ajouté le point d'interrogation, parce que dans un premier temps, je vais faire une sorte d'introduction à la question des musulmans et de l'islam dans le sous-continent indien, très brève, hein, mais je partais du principe que peut-être tout le monde n'était pas vraiment familier avec cette région du monde. Ensuite, donc, je vais retracer la perspective historique de ces débats, tout en parlant évidemment des sources dont nous disposons, donc sur le plan historique. Et enfin, là, je parlerai des débats actuels. En gros, bon, comme on peut le deviner d'après le titre, il y a deux thèses qui s'opposent, mais qui d'ailleurs, dans les deux cas, peuvent être soutenues par des chercheurs. Donc, la thèse, c'est qu'en fait, ces conversions sont des conversions forcées, et l'autre thèse, c'est que ces conversions sont des conversions de foi, par la croyance, par la persuasion, la conviction. Et si j'ai choisi de me concentrer sur la région du Sindh, certes, bon, c'est la région que je connais mieux en Asie du Sud, mais c'est aussi parce que c'est la région du Pakistan où on trouve la plus forte proportion de non-musulmans et essentiellement de hindous. Difficile de parler en termes de statistiques parce que déjà le dernier recensement officiel date de 1981 et même les résultats de ce recensement, les résultats, oui, ne sont pas acceptés justement par les minorités, qu'elles soient hindoues, qu'elles soient chrétiennes, etc. Mais en tout cas, dans le Sindh, dans cette province, personne ne conteste que c'est la partie du Pakistan où il y a la plus forte proportion de non-musulmans. Donc, tout de suite, une rapide présentation de cette région du monde, alors qu'on appelle soit sous-continent indien, soit Asie du Sud, à ne pas confondre avec l'Asie du Sud-Est. Excusez-moi de prêcher pour ma paroisse. L'Asie du Sud-Est, c'est un peu plus à l'est, hein, c'est Birmanie, Thaïlande, Vietnam, Indonésie, Malaisie, Laos, Cambodge, etc. Parce que on fait très souvent la confusion et j'ai remarqué que souvent on appelle l'Asie du Sud Asie du Sud-Est, mais pas l'inverse. C'était une petite parenthèse. Ce qui nous intéresse pour l'instant, c'est que cette région du monde, donc elle est quasiment totalement issue de la fin de l'Empire britannique des Indes et qu'aujourd'hui, elle réunit 7 pays indépendants de l'ouest vers l'est, le Pakistan, l'Inde, le Népal, le Bhoutan, le Bangladesh, Sri Lanka et les Maldives. Et au sein de ces 7 États, donc il y en a 3 dont la population est majoritairement musulmane, mais bon, ils sont très différents, ce que par exemple, l'archipel des Maldives est très peu peuplé. J'avoue, je ne sais pas combien il y a d'habitants, mais très peu. Avec le Pakistan, bon, il y a 220 millions. Bref, en tout cas, l'islam est la religion dominante, voire d'État dans certains cas, dans ces trois États, le Pakistan, le Bangladesh et les Maldives. Et il y a en Inde également une proportion importante de musulmans. Pour terminer, comme j'ai beaucoup travaillé sur les chiites, donc j'aime bien rappeler également que en termes de pratiquants chiites, l'Iran, évidemment, c'est le pays le plus peuplé, mais le deuxième pays, c'est l'Inde, et le troisième, c'est le Pakistan. Donc les chiites ne sont majoritaires ni en Inde ni au Pakistan parmi les musulmans, mais ils forment des groupes importants, difficiles à évaluer, parce qu'au Pakistan en particulier, les recensements, évidemment, ne prennent pas en compte les subdivisions de l'islam. On est musulman ou non musulmans. Un point également de présentation historique, puisque donc les historiens s'accordent à dire que l'islam a véritablement pénétré dans le sous-continent en 711 avec la conquête du Sindh, justement, cette province dont on va parler, par Mohammed bin Qasim, donc qui était en fait un général d'une armée omayyade, puisqu'à cette époque c'était encore le califat omayyade basé à Damas. Mais en tout cas, pendant plusieurs siècles, l'islam est cantonné, j'allais dire, à la vallée de l'Indus, hein, qui se trouve donc à l'ouest du sous-continent indien. Et un premier point, je reviendrai sur la terminologie que je vais utiliser, mais un premier point, parce que très souvent la confusion est faite, il ne faut pas confondre conquête et conversion. Hein, le fait que les musulmans conquièrent un territoire et que les populations qui vivent sur ces territoires deviennent musulmanes. Donc, 711, Mohammed ben Qasim conquiert le Sindh, mais cela ne signifie pas que les populations deviennent musulmanes. Et c'est plus tard, au XIIe siècle, d'autres conquérants musulmans qui viennent en particulier d'Afghanistan, hein, comme Mahmoud de Ghazni, puis après toute la dynastie des Ghurides, c'est à cette époque qu'ils vont progresser vers l'est, vers la plaine du Gange, vers le nord de l'Inde, pour finalement fonder le sultanat de Delhi au début du XIIIe siècle. Donc plusieurs dynasties vont se succéder. Puis au début du XVIe siècle, donc c'est le début de l'Empire moghol, hein, fondé par Babur, qui venait lui-même d'Asie centrale et qui met fin au sultanat de Delhi. Donc l'Empire moghol, bon, on voit qu'il a à la fin du XVIIe siècle connu son apogée territorial, puisque quasiment tout le sous-continent était sous sa domination et, comme vous voyez, vers l'ouest, une grande partie, voire la totalité de l'Afghanistan actuel. Et finalement, c'est l'arrivée des Britanniques, bon, qui arrivent d'ailleurs par l'est, hein, par le Bengale, et qui, dans un premier temps, progressent vers l'ouest, dans cette plaine du Gange, du nord de l'Inde. Alors, il y a des batailles très importantes au milieu du 18e. Bon, il y a la bataille de Plassey, très connue. Moi, j'aime bien citer la bataille de Buxar en 1764, parce qu'en fait, là, les Anglais, enfin, à l'époque, la Compagnie des Indes Orientales, l'armée de la compagnie défait une coalition de souverains du nord de l'Inde qui avaient à leur tête l'empereur moghol. Donc là, c'est vraiment un tournant. Et à partir de ce moment-là, les Anglais vont accroître leur domination. Mais ceci dit, la conquête de cette partie du monde par les Britanniques, elle dure quasiment un siècle. Alors, on peut prendre comme moment où l'empire est quasiment constitué, l'annexion du royaume du Pendjab, qui est un royaume sikh, en 1849. Donc, on ne va pas évidemment entrer dans les détails, mais tout ça pour dire que cette conquête de l'Asie du Sud, du sous-continent indien, s'est faite dans une certaine durée. Donc, politiquement, les musulmans, quasiment depuis le XIIIe siècle, en tout cas, ils dominent le nord de l'Inde. Évidemment qu'il y a eu des États hindous, on ne va pas rentrer dans les détails, mais en tout cas, ils représentent une puissance politique pendant toute cette période. Donc, maintenant, je reviens au sujet de cette présentation. Islamisation, conversion, prosélytisme, prédication. De quoi parle-t-on finalement? Alors d'abord, donc, je m'appuie sur les travaux de Marc Gaborio pour parler de l'islamisation, dans quelle mesure ce terme serait plus pertinent que conversion. Donc, d'après Marc Gaborio, ce terme a deux sens. D'une part, la conversion à l'islam, donc ce qui signifierait abandonner sa religion antérieure pour accepter l'islam, devenir musulman. Mais là encore, qu'est-ce que ça signifie, devenir musulman à travers les différentes périodes? Et deuxième signification d'islamisation, la mise en conformité des pratiques des populations converties avec les injonctions de l'islam. Bon, là, ça peut paraître peut-être étrange, parce que cela signifierait que, en fait, des gens qui revendiquent être musulmans ne le sont pas. Mais là encore, finalement, qu'est-ce que ça veut dire être musulman? Alors, quand on parle d'islamisation dans le deuxième sens, cela signifie que, effectivement, des gens, pour eux, ils sont musulmans, même s'ils ne souscrivent pas aux pratiques fondamentales de l'islam, bon, les fameux, par exemple, pour faire bref, cinq piliers de l'islam. Ça veut dire que ils ne font pas les cinq prières par jour, peut-être qu'ils ne font pas le jeûne pendant le mois de Ramadan, etc. Donc, islamisation, ça serait dans ce sens. Ça serait, en fait, suivre les injonctions, comme dit Marc Gaborio, basiques, dans le sens de fondamental de l'islam. Alors, pour le terme de conversion, bon, il peut aussi poser problème, bon, on va pas passer la soirée là-dessus, mais c'est, vous savez que les termes qu'on utilise, vu qu'on parle en français, très souvent ont été construits dans une période historique où la religion chrétienne dominait, et aussi beaucoup d'ailleurs sont nés au 19e siècle dans la période de colonisation. Bref, tout ça pour dire que le terme de conversion, dans son sens, son acceptation générale, signifie un changement, total, soudain, du jour au lendemain. Ça veut dire que, je sais pas, un jour on était chrétien et on se convertit à l'islam, mais ça pourrait marcher dans l'autre sens. Ça veut dire qu'on délaisse totalement tout ce qui concernait les croyances du christianisme, les rites, les pratiques du christianisme. Dans l'idée de conversion, il y a ça. En tout cas, dans le contexte employé dans le christianisme. Donc, on va voir que on va utiliser ce terme parce que il y en a pas vraiment d'autres, mais on va voir que parfois et peut-être même souvent, c'était un peu plus compliqué que de quitter totalement une religion antérieure. Et on verra dans le cadre du Sindh, c'était surtout l'hindouisme, mais aussi le bouddhisme, pour devenir, j'allais dire, totalement musulman et justement souscrire à tous les préceptes de l'islam. Alors, cette question des conversions à l'islam en Asie du Sud, donc je parle de ce que je connais, mais je sais que c'est aussi le cas dans d'autres régions du monde, a suscité beaucoup de débats. Parce que pendant très longtemps, en fait, en Occident, on a représenté ces conversions par le glaive, par la force, par la violence. Et là, justement, on a fait une sorte d'adéquation entre conquête et conversion. Quand des conquérants musulmans s'emparaient d'un territoire, donc la population, en gros, soit elle se convertissait à l'islam, soit elle était décimée, massacrée. Donc ça, c'est la première thèse, celle du glaive, j'allais dire, hein, qui a été soutenue pendant la colonisation britannique, par exemple, par les Britanniques eux-mêmes, et qui transférait en Inde, dans le sous-continent indien, les représentations en Occident, dans la grande époque d'ailleurs de la colonisation, par exemple, de la conquête française du Maghreb. Mais même à l'époque de la colonisation britannique, certains Britanniques ont présenté une autre thèse qui était celle de la persuasion. Alors il y a un livre célèbre d'un Britannique publié à la fin du 19e siècle où lui, au contraire, il s'évertue à démontrer que les Indiens, alors là je parle indien avant la création de l'Inde, hein, dans le sens d'habitants du sous-continent indien, donc sont devenus musulmans parce qu'ils ont été persuadés, convaincus par la prédication des soufis. Et ce qui signifie que c'était une voie non violente de conversion. Alors ça, c'était une deuxième thèse. Bon, il y en aurait une troisième qui affirmerait que les Indiens qui sont devenus musulmans ont été convaincus encore par des marchands, hein, par des marchands qui venaient de la péninsule arabique, hein, c'est pas loin, c'est un même espace, la partie occidentale en gros de l'océan Indien, et que il y avait très souvent des questions économiques dans les conversions, hein, que ces conversions pouvaient résulter de tractations économiques. Mais en tout cas, cette thèse relative à la conversion à l'islam, même si elle a pu exister, elle a été très minoritaire et elle a concerné surtout les régions, évidemment, littorales, où les marchands arabes venaient négocier donc avec les populations locales. En tout cas, il y a une chose dont on est sûr, d'après les sources historiques, c'est que jamais les Arabes musulmans, donc en particulier Mohammed ben Qassem au début du 8e siècle, ne sont venus en Asie du Sud à des fins de conversion, pour convertir absolument les populations à l'islam, quel que soit le moyen. On sait avec certitude que, et je cite encore Marc Gaborio, ouvrez les guillemets, le principal motif de l'expansion musulmane en l'Inde, ne l'oublions pas, était l'appât de sa richesse fabuleuse. Donc voilà, en résumé, quelles étaient les thèses historiques, pourquoi donc des populations du sous-continent indien sont devenues musulmanes. Et d'ailleurs, j'ajoute une précision, c'est que à l'échelle du sous-continent indien, les musulmans, et malgré la domination politique du Nord, sont toujours restés minoritaires. Hein, aujourd'hui, à l'échelle du sous-continent, ils représentent à peu près 20 ou 25% de la population totale. Les hindous sont toujours restés largement, et restent encore largement, majoritaires. Ceci dit, avec l'arrivée des Britanniques, donc il y avait évidemment l'armée, mais il y avait aussi des missionnaires qui représentaient différentes églises chrétiennes, pas que des missionnaires britanniques d'ailleurs, il y avait des Américains, des Danois et autres, et eux qui étaient des missionnaires, hein, c'est-à-dire des religieux chrétiens qui visaient véritablement à convertir les populations. Et ces missionnaires chrétiens, d'abord, ils voulaient convertir les classes supérieures de la société indienne, bon, et hindoue, vu qu'ils étaient majoritaires, mais ils ont commencé par publier des ouvrages où ils dénigraient les religions locales, aussi bien l'hindouisme, alors l'hindouisme parce que c'était une religion polythéiste et que ça représentait un stade arriéré de l'humanité, etc. Dénigrait aussi l'islam en arguant que Mohammed était un faux prophète, que en fait il n'avait pas du tout l'étoffe des autres prophètes qui l'avaient précédé, etc. Mais, et je dis bien en dénigrant, hein. Donc c'était assez violent. Et ça a produit une réaction, aussi bien chez les hindous que chez les musulmans indiens d'ailleurs, où ils ont cherché à leur tour, d'une part, à démontrer que ce que ces missionnaires chrétiens avancé était totalement faux, et avec des textes à l'appui, avec une véritable recherche à l'appui dans leurs sources, etc. Et aussi, certains se sont lancés dans la prédication, dans le prosélytisme, aussi bien chez les hindous. Donc je mentionne le mouvement le plus important créé à la fin du 19e, l'Arya Samaj, hein, qui avait même réinventé un rituel spécifique, et leur but était de convertir, reconvertir les musulmans indiens à l'hindouisme. Et également chez les musulmans, il y a eu plusieurs mouvements de prosélytisme qui ont été créés, alors peut-être un peu après, au début du XXe siècle. Le plus célèbre, c'est le Tabligh Jamaat, qui existe toujours, l'Arya Samaj aussi d'ailleurs. Et là où très souvent, en s'inspirant d'ailleurs des méthodes de prosélytisme des organisations missionnaires chrétiennes, hein, se sont lancés dans la prédication, et avec le but ouvertement de convertir à l'islam. Donc il y a eu, je dirais, ce développement du prosélytisme dans le sous-continent indien pendant la période coloniale. Oui, alors maintenant, donc, on va s'intéresser au Sindh, hein, qui est la province qui se trouve au sud-est du Pakistan, marquée sur une flèche bleue sur la carte, et comme vous le voyez, qui a une frontière avec l'Inde, avec deux États indiens, Rajasthan et Gujarat. Donc, comment la population du Sindh est devenue musulmane. Là, il faut évidemment se tourner vers les sources, et en particulier donc vers la personnalité du conquérant. Mais auparavant, on dispose d'un écrit très intéressant qui a été composé par un pèlerin chinois bouddhiste, hein, qui a traversé le Sindh une cinquantaine d'années avant la conquête arabe, avant la conquête musulmane, donc Yuan Xiang. Et donc il donne une description très détaillée de la province du Sindh, où il nous apprend que la population était à peu près à moitié hindoue et à moitié bouddhiste, hein, à peu près, avec peut-être plus de bouddhistes dans le sud de la province, mais d'ailleurs toujours aujourd'hui il y a des vestiges bouddhistes qui sont d'ailleurs en plus grand nombre que les vestiges hindous. Donc voilà quelle était la situation. La conquête donc du Sindh par Mohammed Ben Qasim, elle est relatée dans un traité qui s'appelle le Chachnama, et comme vous voyez, bon, qui fait partie de cette catégorie des livres de conquête, hein, Fatehnama, Sindh, Al-Maruf, Chachnama. Alors c'est un ouvrage très important. Bon, il faut quand même savoir qu'il a été compilé au XIIIe siècle, donc 8, 9, 10, 11, 12, 13, 5 siècles après la conquête elle-même, mais son auteur, il est en persan, mais l'auteur lui-même dit qu'il s'est inspiré d'historiens arabes, hein, des grands historiens arabes, en particulier du 9e siècle, comme Al-Baladouri. Hein, il a vraiment fait une compilation, et il s'est également inspiré de témoignages qu'il a recueillis par des familles arabes du Sindh, qui étaient les descendants de soldats de Mohammed Ben Qasim. En tout cas, dans son livre, dans le Chachnama, on peut avoir un certain nombre d'informations importantes sur la politique de Mohammed Ben Qasim, et en fait quasiment la politique du califat Omayyad, parce que Mohammed Ben Qasim, il était envoyé pas par le calife mais par le gouverneur de l'Irak qui était son oncle, et chaque fois qu'il avait une décision à prendre, il demandait l'avis donc à son oncle sur ce qu'il fallait faire. Alors ce qu'on apprend, c'est que d'une part, les hindous et les bouddhistes sont considérés comme Ahl al-Kitab, donc les gens du livre, et que à ce titre, ils bénéficient du statut de Zimmi. Et évidemment, ils doivent s'acquitter de la jizya. Mais ce qui signifie que à aucun moment la politique de Mohamed Ben Qassem a été la conversion à outrance, et on a différentes relations dans le Tchatchnama de négociations entre Ben Qassem et la population des villes. Donc, par exemple, dans une ville, les hindous ont dit bon qu'ils ne voulaient pas résister, qu'ils ne voulaient pas combattre Mohamed Ben Qassem, et que ils acceptaient de se rendre, bon, à condition donc qu'ils soient épargnés, et aussi à condition qu'aucun musulman ne rentrerait dans leur temple donc hindou, ce que Mohamed Ben Qassem a accepté. Alors évidemment, lorsque des villes résistaient, là les combattants à la suite étaient massacrés, mais j'allais dire c'était probablement une coutume de l'époque qui a d'ailleurs perduré assez longtemps. Donc, ce qui veut dire que la conquête du Sindh n'a pas été suivie de conversion massive à l'islam. Et enfin, Mohamed Ben Qassem, il a laissé totalement l'administration du Sindh tel qu'il l'avait trouvé, puisque, en fait, c'était le Sindh est un royaume gouverné par un hindou, un brahman, mais qui lui-même venait de détrôner un roi bouddhiste. Et les bouddhistes, en fait, régnaient sur le Sindh jusqu'à ce que ce brahman prenne le pouvoir, et avant donc la conquête musulmane. Et dans une certaine mesure, et on le trouve aussi dans le Tchatchnama, les bouddhistes ont même accueilli les musulmans en libérateurs de l'oppression que ce brahman, que cet hindou, faisait peser sur eux. Donc, pas de prosélytisme à l'époque de l'émirat arabe du Sindh, dans le giron du calife Omayyad, ensuite du calife Abbaside. Et là encore, bon, on va pas entrer dans le détail des sources, mais on sait avec certitude que les premiers musulmans avoir eu une politique de prosélytisme dans le sous-continent indien et dans le Sindh en particulier sont les ismaéliens, les chiites ismaéliens. Donc, comme vous le savez, les ismaéliens sont une branche minoritaire au sein du chiisme, et ce qui les distingue principalement des chiites duodécimains, c'est qu'ils croient en la présence d'un imam manifesté, donc descendant direct de Ali et de tous les autres imams, et donc qui est manifesté, aujourd'hui c'est le 49e, qui est Shah Karim al-Husseini, mais plus connu sous le nom d'Aga Khan, Aga Khan IV. Bref, en tout cas, dès le 9e siècle, la fin du 9e siècle, les Ismaéliens ont envoyé des missionnaires dans le Sindh, et cette fois donc à des fins de prosélytisme, à des fins de conversion. Et là encore, on a des sources historiques tout à fait crédibles. Par la suite, bon, les Ismaéliens, ils vont fonder le califat fatimide en 909, d'abord basé en Tunisie, et par la suite, ils conquièrent l'Égypte et ils fondent le Caire. Je parle sous le contrôle de Suavon. Voilà, donc vous voyez que le prosélytisme ismaélien en Inde, dans ce continent, il commence avant la fondation du califat fatimide en 909. Et alors, par la suite, les Ismaéliens dans le Sindh vont prendre le pouvoir, c'est-à-dire qu'ils vont fonder un émirat ismaélien qui sera vassal de l'empire fatimide. Là, c'est la période donc du calife fatimide al-Mu'izz, hein, dans la deuxième moitié du Xe siècle. Donc, les Ismaéliens, eux, ont une technique de prosélytisme et donc de conversion qu'on connaît relativement bien. Et en Asie du Sud, dans le sous-continent indien en particulier, les missionnaires ismaéliens, alors qu'on appelait dans le monde arabe Daï, mais après en Asie du Sud, on les appelle Pir, comme pour le titre des maîtres soufis, Pir, qui veut dire maître en persan. Eh bien, ils ont une technique très rodée, j'allais dire. Hein. En général, ils approchent les populations sans dévoiler leur véritable identité, à les populations hindoues en particulier. Donc, ils se fondent dans la masse, ils pratiquent même les rituels des populations locales, et puis ensuite, par la persuasion, par un discours assez élaboré, ils les convainquent donc de devenir ismaéliens. Et là, j'ai reproduit ce schéma qui est très intéressant, qui a été réalisé par une chercheuse, Tassim Kassam, hein, qui a beaucoup travaillé sur la littérature dévotionnelle des Ismaéliens, qu'on appelle Guinan, les Guinan, et où plusieurs de ces Guinan, de ces poèmes, décrivent comment les pires s'y sont pris pour convaincre ces populations à devenir musulmanes ismaéliennes. Donc, en reprenant des rituels comme par exemple celui de la danse, et on change le destinataire du rituel. Ainsi, la danse était pour une déesse ou pour Shiva. Eh bien, finalement, on continue, on ne change pas la danse, mais elle n'est plus destinée à la même personne, elle est destinée à l'imam. Et il y a aussi certainement une croyance qui a joué un rôle très important dans ce phénomène de conversion, c'est que les populations hindoues, donc, croyaient en la venue d'un sauveur qui était la dixième incarnation du dieu Vishnu, mais qu'on appelait Naklanki. Et en fait, le travail des pires, des missionnaires ismaéliens, a été de convaincre les populations locales que ce sauveur était déjà apparu à l'ouest, et il cite même une région de l'Iran où à cette époque les imams ismaéliens étaient établis, et que donc en fait c'est lui Naklanki. En fait, c'est l'imam ismaélien qui est le sauveur, qui est Naklanki. Alors, on a beaucoup de Guinan qui parlent de cette question, donc ce qui indique que ça a été un élément très important. Et il y a même un Guinan très célèbre, bon, qui maintenant est relégué, qui s'appelle Das Avtar, hein, parce que, où on décrit les 10 incarnations de Vishnu, et le 10e, donc on dit, alors que c'est Ali, ou Ali qui lui-même s'est manifesté au sein de ses descendants, donc qui sont actuellement les Aga Khan. Et la photo que j'ai mise en bas à droite, donc en fait est tirée d'une revue ismaélienne publiée à Bombay où l'Aga Khan, c'est l'Aga Khan, bon, pas le présent, son prédécesseur, il est au milieu des avatars de Vishnu, et où donc il est dit qu'il est le 10e avatar, hein, incarnation de Vishnu, et qu'il est donc ce sauveur. Bon, on n'a pas la chronologie, évidemment, du prosélytisme ismaélien. Et, bon, finalement, ce prosélytisme n'a pas eu un succès total, puisque, bon, les ismaéliens, dans cette région du monde, aujourd'hui en Inde et au Pakistan, ne sont pas très nombreux au vu de la population totale. Hein, ils sont quelques millions. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que après le prosélytisme ismaélien est arrivé le prosélytisme soufi. Hein, toujours, je parle de l'Asie du Sud, plus particulièrement de la vallée de l'Indus et du Sindh, qui se trouve au sud de la vallée de l'Indus. Alors là encore, bon, dans les Guinan, il en est question, et aussi dans différents champs folkloriques, on peut trouver des allusions, des références au fait qu'il y a eu une compétition entre les pires ismaéliens et les pires soufis. Puisque, en fait, c'est une conséquence d'un événement qui a touché le monde musulman quasiment dans son ensemble et aussi d'autres régions du monde, c'est l'arrivée des Mongols, hein, et en particulier de Gengis Khan au milieu du XIIIe siècle, donc qui vient du nord de l'Asie centrale et qui envahit l'Iran, qui va jusqu'à Bagdad au milieu du XIIIe siècle. Et donc beaucoup de soufis, là on s'intéresse aux soufis, mais aussi d'autres catégories de personnes, ont fui de l'Asie centrale ou du monde iranien et se sont réfugiés en Asie du Sud. Et en particulier, il y a une confrérie soufie, la Sohrawardiya, qui s'est implantée dans, à cette période dans la vallée de l'Indus. Et le principal maître au milieu et à la fin du XIIIe siècle était Bahauddin Zakaria. Et là, on a vraiment des traces de son activité missionnaire. Donc, il a dépêché des soufis pour prêcher l'islam et convertir des populations dans l'actuel Pendjab, dans le Sindh et ailleurs. Là encore, les récits actuels y font directement référence. Donc, et comme je le disais, dans les Guinan ismaéliens, dans les poèmes dévotionnels ismaéliens, il y a des références également, hein, où il est dit, par exemple, que tel pire, il a eu une espèce de débat avec Bahauddin Zakaria, il est nommé, et que, évidemment, il a convaincu Bahauddin Zakaria que l'ismaélisme était supérieur au soufisme, etc. Donc, on en arrive maintenant à la période contemporaine. Et alors, oui, ce qu'il faut dire avant d'entrer dans le détail des thèses, des débats relatifs à la conversion à l'islam, c'est que le Pakistan, donc créé en août 1947, qui est une république islamique, seul un musulman peut être président, seul un musulman peut être premier ministre, mais il y a la liberté religieuse, chacun est libre de pratiquer sa religion dans la constitution. Néanmoins, le Sindh est une terre toujours de prosélytisme et qui ne concerne pas seulement la conversion à l'islam. Il y a un prosélytisme chrétien qui était en tout cas actif. J'ai travaillé sur cette question. Alors, ce n'est pas très récent, certes, puisque cela remonte à une quinzaine d'années, mais ils étaient très actifs, les missionnaires chrétiens. Il y avait plusieurs groupes de différentes obédiences chrétiennes, alors principalement des Mennonites, donc c'est une secte dans le sens anglo-saxon, protestante évangélique, et j'ai rencontré donc cette dame, Saloma Smith, qui était une missionnaire Mennonite, qui était de profession institutrice. Elle avait travaillé 20 ans au Canada, elle était canadienne, et puis elle était venue prêcher sa bonne parole, la bonne parole dans le Sindh. Et quand je l'ai rencontrée, elle vivait donc dans un village, et leur cible favorite, mais alors ça c'est le cas de tous les prosélytismes, qu'ils soient musulmans, soufis, ismaéliens, chrétiens, ce sont les communautés les plus faibles, et donc plus particulièrement au sein des hindous, ceux qu'on appelle les intouchables ou les hors-castes, hein, qui ont un statut très bas, qui sont pas reconnus comme hindous d'ailleurs par les autres, comme vous le voyez dans le schéma que j'ai fait, donc qui appartiennent à des groupes, hein, comme les Koli, les Bil, les Mangvar, etc. Donc c'est surtout ces populations qui sont ciblées. Et Saloma Smith, donc elle vivait dans un village, donc de Kachi Koli. La moitié du village était hindoue et l'autre moitié était chrétienne. Et elle, en fait, elle avait fondé une école. En fait, elle enseignait en ourdou aux enfants, qu'ils soient hindous ou qu'ils soient chrétiens. Et donc, comme ils étaient Kachi, ils venaient d'une autre province, elle m'avait dit que son groupe est en train de traduire la Bible en Kachi. Je ne sais pas s'ils ont jamais réalisé ce travail. Mais bon, alors, quand on parle avec des missionnaires, et une fois encore, qu'ils soient chrétiens, musulmans ou autres, bon, jamais on ne vous dira que la finalité de leur engagement est la conversion. Bien sûr, jamais, même pas Saloma Smith. Mais et toujours, bon, on finit par comprendre que comment on négocie la conversion. Qu'est-ce qui fait, dans ce cas, que des Kachikoli, donc qui appartiennent à une caste intouchable, deviennent chrétiens? Eh bien, très souvent, il y a des négociations d'ordre économique, c'est-à-dire que en même temps, on leur donne du travail, ou bien on va donner de l'argent pour que le village ait l'électricité, etc. Mais une fois encore, ce scénario est le même dans tous les cas de conversion à l'islam, par les Ismaéliens ou par d'autres, et donc ici par les chrétiens. Alors il y avait aussi un autre groupe chrétien très actif, c'était des catholiques, et ce que je n'ai pas dit également pour les Mennonites, c'est que plusieurs ont soutenu des thèses de doctorat sur les communautés au sein desquelles ils travaillaient. Et jusqu'à maintenant, bon, non, maintenant, ça s'est plus développé localement au Pakistan, mais à cette époque, c'était les seuls à avoir vraiment consacré des thèses de doctorat à ces populations intouchables du Sindh. Donc là, il y a un autre, c'est un missionnaire catholique, Monsieur McAfee. Donc lui, il a carrément consacré sa thèse à la question du missionnaire, au rôle du missionnaire. Alors lui, il s'occupait d'une autre communauté, des Kolim et des Parkari Koli, donc qui venaient d'une autre région, cette fois du Sindh. Et il décrit sa vie de missionnaire et finalement, voilà, comment on peut mener à bien sa mission, hein, donc en l'occurrence la conversion de Parkari. Et il se plaint pas mal dans cette thèse, parce qu'il dit que c'est difficile, et que surtout ce qu'il dit, c'est que même quand officiellement ils sont devenus chrétiens, en fait non. En fait, ils continuent à pratiquer leur rituel et autres, mais également parce que quand ils se convertissent, ils sont ostracisés par leur communauté. Par leur communauté hindoue. En tout cas, la lecture quand même de cette thèse est très intéressante. Alors j'en arrive au cœur de la question aujourd'hui, puisque dans le Sindh, donc c'est un très grand débat, bon, qui maintenant d'ailleurs dépasse les frontières du Sindh, qui a gagné le pays, qui a gagné l'ensemble du Pakistan, c'est la question des conversions forcées. Je la nomme ainsi parce que c'est comme ça qu'elle est nommée dans les débats, même si on refuse le fait que ce sont des conversions forcées. Alors, bon, en gros, comme je l'ai dit au début, il y a deux thèses cette fois, celle de la conversion forcée et celle de la conversion par la foi. Donc la conversion forcée, elle a été étudiée le plus par cet anthropologue autrichien, Jürgen Schafflechner, qui est donc docteur en anthropologie, qui a fait ce documentaire en 2016, Thrust into Heaven, mais qui a aussi publié plusieurs articles sur la question. Et le principal représentant, j'allais dire, de l'autre thèse est également un anthropologue, Monsieur Ghulam Hussein, c'est un anthropologue sindhi, mais qui travaille pour un institut qui est basé à Islamabad et qui s'appelle IPS, Institute of Policy Studies. Alors, il n'est pas inintéressant de savoir que cet institut, en fait, est une excroissance, si j'ose dire, de la Jamaat-e-Islami, qui est donc un parti islamiste du Pakistan qui cherche à imposer la charia, etc. Alors, pour entrer un peu dans les détails de la thèse d'abord de Jürgen Schafflechner, et qui est celle, bon, de, évidemment, d'autres personnes, d'autres Pakistanais, pour lui, donc, en fait, premier point, on ne peut pas séparer la question de la conversion de celle du mariage. Parce que au Pakistan, donc si un musulman veut prendre une épouse, elle doit être musulmane. Donc si elle ne l'est pas, elle doit se convertir. Donc pour lui, les deux sont inséparables. Dans la plupart des cas de conversion forcée, c'était à des fins de mariage, mais donc en général qui était aussi forcé, hein, qui était refusé. Et dans les différents cas qu'il a étudiés, eh bien, le scénario est à peu près toujours le même. Donc, ce sont des femmes. D'ailleurs, il n'y a jamais de cas de conversion forcée qui concerne les hommes. Elles appartiennent à des communautés, comme je l'ai dit, très défavorisées. Et quand la famille a porté plainte, parce que souvent, elles sont d'abord kidnappées, et tenues dans un lieu secret, et quand elles réapparaissent, elles sont musulmanes et mariées. Donc, quand les parents veulent porter plainte, la plupart du temps, la police ne prend pas la plainte, parce qu'ils craignent, la police craint les représailles de la famille, de la personne qui l'a forcée à devenir musulmane et à se marier. Mais Jürgen Schaffleschner, donc, qui est anthropologue, il situe cette question vis-à-vis la question de l'honneur aussi, hein, qui est très important dans la société du Sindh, bon, qui est une société où effectivement les femmes incarnent l'honneur du groupe et où on trouve des coutumes, si j'ose dire, comme celle de Karokari, où en fait, si une femme a pratiqué l'adultère, elle peut être tuée par n'importe qui, n'importe quand, et il y a des cas, et en général, les meurtriers sont toujours, même s'ils vont devant un tribunal, ils sont jamais condamnés. Cette question également, elle a été investie par les partis politiques, puisque d'abord dans le Sindh, le Pakistan est un pays fédéral, donc il y a un gouvernement du Sindh et une assemblée provinciale du Sindh. Donc des députés de cette assemblée provinciale ont préparé une loi pour interdire les conversions forcées. Alors c'est quand même assez intéressant de suivre l'évolution de cette question. Donc en 2016, la loi est adoptée à l'unanimité par l'Assemblée provinciale du Sindh, la loi qui interdit les conversions forcées. Mais cette loi n'a jamais été appliquée parce qu'elle doit être ratifiée par le gouverneur du Sindh, qui lui représente l'État central, et le gouverneur n'a jamais voulu la ratifier, donc elle n'a jamais été appliquée. Et ici, donc pourquoi le gouverneur ne l'a pas ratifiée ? Parce que il a subi la pression des partis religieux, des partis islamistes, qui ont menacé différents députés et qui ont dit que donc il n'était pas du tout question de conversion forcée et que c'était anti-islamique que de faire une loi contre les conversions. Donc ça, c'est pour la thèse de Jürgen Schaffleschner et de la conversion du mariage forcé. Alors, les arguments de la thèse de la conversion par la foi, et plus particulièrement ceux de Ghulam Hussein, qu'il a exposé dans ce rapport « Forced Conversions or Faced Conversions », qui est disponible, hein, qui a été publié par l'institut pour lequel il travaille. Donc, pour lui, c'est un complot occidental, qui est en fait dont le but est de dénigrer le Pakistan, mais surtout qui est de dénigrer l'islam. Hein, que cette histoire de conversion forcée véhicule encore des représentations de l'époque coloniale, où justement on associait toujours l'islam avec la contrainte, la coercition, la violence, etc. Bon. Quant à ces arguments, je dirais qu'ils ne sont pas toujours convaincants. Et alors, il critique beaucoup, avec virulence, pour pas dire plus, Jürgen Schaffleschner, Bon, en l'accusant, en fait, de reprendre les théories des ONG pakistanaises et occidentales sur les conversions forcées, sans jamais prendre la peine de questionner les intéressés eux-mêmes, ceux qui sont accusés de convertir et ceux qui sont convertis, etc. Bon, ce qui n'est pas non plus totalement faux, mais à ce sujet, vous pouvez regarder le documentaire de Jürgen Schaffleschner qui est disponible, je crois, en ligne. Donc, en tout cas, c'est des questions vraiment très complexes, hein, parce que elles sont imbriquées différents aspects religieux, sociaux, politiques et autres. Mais il y a quand même une chose qui est indéniable, c'est que la société du Sindh est une société très conservatiste. Un très grand sociologue norvégien, Fredrik Barth, l'a qualifié de quasi-féodale. Et donc, dans ce contexte, bon, il y a énormément de pression qui pèse sur différentes catégories de population, et plus particulièrement sur les plus défavorisés. Parce que la plupart de ces intouchables hindous, qui sont donc les cibles, vivent sur sont agriculteurs, mais ils ne possèdent pas les terres. Ils travaillent pour des grands propriétaires terriens qui ont quasiment, c'est pas officiel, mais droit de vie et de mort sur eux. Certains ont des prisons privées, etc. Donc, bon, il y a un rapport de force qui est évidemment très déséquilibré. Mais c'est très complexe parce que, bon, là, il y a eu une couverture médiatique énorme, hein, de ces questions, parce que les jeunes femmes, donc hindoues, qui sont converties, elles changent constamment de version. Une fois, elles disent que non, elles ont été kidnappées. Après, elles disent non, en fait, c'est moi, je voulais me convertir à l'islam, etc. Donc, c'est vraiment une question très, très complexe. Bon, évidemment qu'il n'y aura pas une réponse blanche, en tout cas vérifiable pour toutes ces questions. Et juste quelques mots sur les agents de la conversion, parce qu'on n'en a pas parlé. Qui sont ceux qui convertissent, que ce soit de gré ou de force? Alors, pour ce qui est le Sindh, il y a, j'ai pris deux exemples. Alors d'abord, nous avons Monsieur Mian Mittu, qui est celui du haut. Alors lui, c'est un soufi. En fait, il appartient à une grande famille de soufis du nord du Sindh, hein, qui gère la Dargah de Balchundi Sharif, comme vous pouvez le voir. Et lui, alors il a été interviewé d'ailleurs par Jürgen Schaffleschner, il apparaît dans son documentaire, mais pour lui, donc, il n'y a... il recueille des hindous qui veulent se convertir à l'islam. Et pour lui, toute cette histoire vient du fait que leur famille le refuse et que c'est eux qui montent toutes ces histoires. Parce qu'ils refusent que leurs filles deviennent musulmanes, bon, trahissent la foi de leurs ancêtres, etc. Donc il dit qu'il n'y est absolument pour rien. Bon, ceci dit, si on s'intéresse à ce personnage, d'abord c'est un homme politique. Au début, il appartenait, bon, au PPP, Parti du peuple pakistanais séculariste de Zulfikar Ali Bhutto, mais il a été renvoyé de ce parti. Au début, Imran Khan, l'ancien premier ministre, voulait le recruter, mais devant les tollés, finalement, il a renoncé. Récemment, bon, il a été banni par la Grande-Bretagne à cause de ses activités justement dans les mariages forcés. Alors le second personnage, Baba Din Mohamed Sher, là c'est un cas totalement différent. Lui, il vit dans le sud du Sindh et lui, eh bien, c'est un hindou qui s'est converti. C'est un hindou qui s'est converti et qui explique qu'il s'est converti, alors maintenant, il y a 40 ans, de son plein gré, et que l'islam est la meilleure des religions. Et donc, il a fondé, dans le sud du Sindh, une madrasa qui est spécialisée dans la conversion des hindous. Et donc, lui, il affirme qu'il n'y a aucune conversion par la force, forcée, c'est par la persuasion, par la conviction, par l'enseignement de l'islam, d'éléments du livre, du Coran, etc., que des gens, des hindous viennent et manifestent leur désir de se convertir. Bon, alors là aussi, en tout cas dans le cas de Baba Din Mohammed Sher, c'est attesté, il y a aussi des négociations économiques. Hein, parce que il vit bon dans un village où il y a une très grosse industrie sucrière de canne à sucre, et en fait il a été sponsorisé par le propriétaire très riche de cette usine. Et là encore, si vous voulez, les convertis, il y a une contrepartie financière et économique. En particulier, on leur donne des emplois dans l'usine, etc. Mais là encore, donc, c'est un sujet qui est généralement assez difficile à creuser. Alors, juste pour terminer, je reviens aux Ismaéliens, parce que, comme je l'ai dit, au sujet de des phénomènes de conversion, c'est peut-être sur ce groupe qu'on a le plus d'éléments. Parce que, tout à l'heure, j'ai présenté le Sine comme une terre de prosélytisme, mais donc, toujours actuellement, les Ismaéliens pratiquent également envers les intouchables hindous une politique de prosélytisme. Et ce qui est particulièrement intéressant, j'allais dire, c'est que leur technique n'a pas changé, hein, c'est-à-dire qu'ils avancent masqués, entre guillemets, qu'ils se mêlent à ces populations, qu'ils apprennent même leur bhajan, leur chant dévotionnel, qu'après ils montrent que certains guinan, c'est quasiment la même chose, etc. Et ce qui fait que maintenant on a des familles ismaéliennes qui sont des hindous intouchables convertis, comme celle de la photo. Mais ce qui est intéressant également, c'est qu'en fait on les considère pas totalement comme ismaéliennes. On les appelle officiellement néo-ismaéliennes, c'est le terme. Et bon, les ismaéliens, ils ont un lieu de culte spécifique qu'on appelle Jamaat Khana. Et par exemple, moi, je connais plusieurs endroits dans le Sindh où il y a deux Jamaat Khana. Il y en a une pour les ismaéliens et une pour les nao-ismaéliens. Donc, ce qui peut nous laisser poser quelques questions sur les questions de statut, etc. Mais c'est quand même intéressant parce que quand on interroge certains de ces Nao-Ismaili, par exemple, si on demande, mais finalement, pourquoi vous étiez hindou, pourquoi vous êtes devenu musulman, ben on peut avoir une réponse comme, ah mais je n'étais pas hindou, les hindous ne me considéraient pas comme hindou. Donc en fait, je n'étais pas hindou. Et bon, très souvent, on a aussi les arguments que dans l'islam, il n'y a pas le système de caste, il n'y a pas donc qu'il y aurait cette égalité entre les différents musulmans, mais qui est un peu nié, je dirais, dans les faits, comme le montre par exemple l'existence de ces deux Jamaat Khana. Voilà, je m'arrêterai donc ici et je vous remercie de votre attention.
Grand merci, Michel Boivin, pour cette conférence absolument passionnante, très claire, qui nous permet vraiment d'avoir une vue générale du 8e ou du 7, oui, du début du 8e siècle jusqu'à quasiment à nos jours très récents, à partir de cette question du passage de l'un à l'autre, puisque vous avez bien indiqué que derrière le terme conversion pouvait se cacher des réalités parfois extrêmement différentes. La parole est au public. J'indique à nos amis qui nous écoutent en ligne qu'ils peuvent aussi intervenir. On peut prendre leurs questions éventuellement, mais d'abord la priorité est au présent et aux présentes. Donc il y a un micro et vous pouvez prendre tout de suite la parole.
Merci. Merci beaucoup, Michel, pour cette présentation, avec plein d'éléments nouveaux que je ne connaissais pas, malgré toutes ces études sur les Guinanes, avec toi et sans toi. Ma question, c'est quelle est la perception de l'islam officiel sunni de ces groupes, qu'ils soient néo ou pas néo, je ne parle pas de l'ismaélisme en général, mais de ces catégories particulières. Comment ils sont à outcast ou comment ils sont présentés? Parce que ça, tu n'as pas parlé de ça par rapport au monde sunni. Enfin, c'est un peu, c'est pas vraiment un autre sujet. Mais comme tu travailles un peu dans toutes ces communautés, plus ton témoignage que des thèses officielles pourrait être intéressant pour nous. Merci.
Oui, en fait, c'est la grande question de savoir dans quelle mesure les musulmans reproduisent quelque chose qui s'apparenterait au système de caste avec toutes les questions de pur et d'impur entre les différents groupes. Ben, en fait, les musulmans, alors là, c'est toujours difficile de dire les musulmans, parce qu'évidemment qu'il y a différentes approches, mais le Sindh restant une terre très rurale, hein, je dirais que dans la campagne sindhi, les musulmans, ils auraient tendance à les considérer comme impurs aussi, finalement, comme le font les hindous. Mais moi, j'ai même eu des témoignages, parce que, par exemple, dans le Sindh, beaucoup de musulmans, peut-être sunnites en particulier, mais pas sûr, considéraient avant les ismaéliens comme non-musulmans et comme impurs, refusaient. Moi, on m'a raconté qu'un saïd, dans un village, refusait de manger avec les ismaéliens, parce que pour lui, ils étaient hindous. Donc, il y a...
Hindous ou impurs ?
Les deux. Ils étaient impurs parce qu'hindous, parce que restaient encore hindous, même s'ils prétendaient être musulmans. Et ça, donc, c'est quelque chose qui était encore assez prégnant dans le Sindh rural en particulier. Et donc, pour eux, les intouchables, ils n'ont... Bon, comme je l'ai dit, ils travaillent sur les terres des propriétaires terriens, des amindars, donc qui sont surtout sunnites, mais bon, ils ont pas d'interaction particulière avec eux.
Une autre question?
Oui, moi je suis très admiratif pour cet exposé, parce que j'avoue que en partant de l'Afrique, c'est complètement surréaliste comme débat. Que d'abord des anthropologues puissent se mêler à ces histoires et à débattre sur ces choses-là, parce qu'en fait, du côté africain, il n'y a pas d'intouchables. En fait, les intouchables, ce sont les esclaves. Mais on n'en parle pas. Et donc, cette histoire de conversion... se convertir à l'islam, c'était aussi se libérer. Et donc, on a toute une série de phénomènes d'ethnies qui phagocytent des tas d'éléments de subalternes. Au Nigeria, les Haoussa, en Sénégambie, les Wolofs, etc., etc. Et devenir, et les Foulbés en les Peuls ou les Foulbés au Cameroun, et devenir Haoussa, etc., c'était, et quitter la campagne, c'était devenir musulman. Mais je viens justement d'en discuter avec un ami cet après-midi, il me dit, il ne faut pas le dire. Il ne faut pas le dire que l'origine d'un tel est... Et là, alors qu'effectivement, les techniques de conversion, enfin, les grandes conversions, pourquoi c'est à l'époque coloniale, justement, que cette Afrique sahélienne ou même plus s'est largement convertie, justement parce que ça permettait à ces subalternes, qui représentaient presque la moitié de la population, hein, les esclaves, quand les Français et les Anglais sont arrivés à la fin du siècle, ils ont découvert avec stupéfaction que les zones rurales étaient peuplées à 30-50% d'esclaves. Et donc, et la mobilité et ces ethnies phagocytantes ont permis d'effacer tout ce problème. Mais donc il n'y a pas de débat comme là, c'est absolument stupéfiant. Voilà, c'était juste une
réaction peut-être. Ouais. C'était pas vraiment une question, mais un travail de comparaison.
Oui, oui, tout à fait, oui. Tout à fait. Non, juste un mot sur le débat entre anthropologues. Parce que bon, il y a un anthropologue, Ghulam Hussein, qui travaille dans un institut qui dépend de la Jamaat Islami, et c'est dans ce cadre-là qu'il a publié son rapport d'ailleurs. C'est tout.
Deux questions devant.
Donc, bonjour. Tout d'abord, merci pour cet exposé. Je pense qu'il était très mesuré et très nuancé. Parce que moi, j'avais peur justement de ça, parce qu'on parle de religion, on parle des conversions, et c'est très problématique. J'ai bien aimé l'équilibre qu'il y avait. Et du coup, moi, je me pose une question quand on parle des conversions qui visent toujours les femmes. Est-ce que ce n'est pas une question qui est que féminine? Par exemple, il y a Idoua Zehra l'année dernière qui a été kidnappée, mais il n'y avait pas une histoire de religion. C'était juste parce qu'il y avait une opposition. Et je trouve aussi qu'il y a aussi je pense qu'il y avait Mariam Abou Dahab qui parlait à un moment donné dans une de ses conférences des conflits sous-jacents, des conflits autres qui résident dans ces conversions ou dans ces conflits, par exemple le blasphème aussi. Donc il y a d'autres soucis. Et est-ce que c'est pas justement la culture pakistanaise qui est compliquée et qui est très complexe, qui fait que on en arrive là, mais peut-être que c'est pas vraiment les religions, c'est plus global.
Oui. Alors d'abord, je vous remercie d'avoir trouvé que j'ai été nuancé. Non, mais je prends, si c'est un compliment. Non, parce qu'effectivement, c'est complexe. Non, mais et pour la suite de vos commentaires, vous avez tout à fait raison. Parce que, bien sûr qu'on ne peut pas prétendre que aucune jeune femme hindoue n'a jamais voulu devenir musulmane, évidemment. Mais bon, on ne peut pas non plus penser qu'il n'y a pas de conversion forcée. Mais c'est, en fait, il n'y a qu'une seule chose à dire, finalement, c'est que c'est extrêmement complexe, et même pour les raisons que vous avez énoncées, qu'à travers ça, on peut aussi régler d'autres questions, etc. Et là, il faudrait faire un travail très approfondi, que même Jürgen Schaffelechner n'a pas pu faire, parce qu'il y a aussi un aspect, ne nous mentons pas, assez dangereux. J'utilise le mot même de dangereux. Donc, en fait, personne n'a vraiment pu approfondir, et même ces jeunes femmes, j'ai pas cité tous les cas, comme je vous l'ai dit, sous différentes pressions, et on peut pas exclure qu'il n'y a pas la pression de leur famille, donc elles peuvent changer de version, etc. Donc, faudrait vraiment un travail sur le long terme et très, très approfondi. Mais il reste que, oui, c'est une société très complexe, donc qui est régie encore par des codes qui sont très difficiles à déterminer même.
Bonsoir. Alors, mon intervention, elle rejoint du coup ce que vient de dire mon ami Hamim. J'avais plusieurs choses à dire. Comme je vous l'ai dit, j'ai regardé le documentaire. Bon, j'ai pas regardé jusqu'à la fin, j'ai pu regarder que la moitié. Ce que j'ai trouvé, on va dire, entre guillemets, problématique par rapport au documentaire de l'anthropologue et aussi à l'étude de l'anthropologue, ça rejoint vraiment ce que tu as dit finalement, c'est qu'ils n'ont pas pris en compte plein d'autres aspects de la société pakistanaise, que ce soit du coup la question des minorités. Et du coup aussi la question des femmes, en fait, de la sécurité des femmes, de leur parole, la liberté de leur parole. Et dans les deux cas, je trouve que finalement, c'est incomplet parce qu'ils prennent pas en compte tous les acteurs. Et moi, dans le documentaire, ce qui me frustrait beaucoup, c'est qu'au lieu d'aller tout le temps chercher les femmes et vouloir qu'elles s'expriment, et de toute façon, si elles sont entourées d'un groupe d'hommes, on sait très bien ce qu'elles vont dire, on sait très bien... Ouais. Je suis franco-pakistanaise et je connais la pression que les hommes nous mettent implicitement.
Oui, et excusez-moi de vous interrompre, même dans le documentaire, on voit les femmes, bon, on voit... Enfin, oui.
Exactement, ça se voit dans leur attitude corporelle, enfin, dans leurs yeux aussi, on peut lire beaucoup plus de choses. Et donc, je me disais, c'est dommage parce que pourquoi on n'interroge pas dans le documentaire, par exemple, je ne me rappelle plus du nom du jeune homme qui a kidnappé du coup cette femme et qui s'est marié avec elle. Et je me disais, mais lui, pourquoi on ne lui demande pas pourquoi tu as agi de cette manière-là? Qu'est-ce qui te permet aussi, en fait, finalement, de pouvoir kidnapper une femme, de pouvoir se marier avec elle? Et en fait, j'ai trouvé que c'était dommage de ne pas remettre en cause tout ça et de se concentrer uniquement sur la femme et le fait que c'était une conversion forcée. Et je trouve qu'en faisant ça, on admet du coup et on accepte implicitement qu'un homme peut en fait kidnapper une femme, se marier avec elle. Ça, c'est pas du tout problématique. On remet pas ça en question. Par contre, on va se demander si la femme qui est maintenant mariée, est-ce qu'elle est vraiment convertie ou est-ce qu'elle est pas convertie. J'ai envie de dire oui, mais le problème il vient d'avant en fait finalement. C'est plus en amont et ça, j'ai trouvé dommage. Bon, après, j'ai pas vu jusqu'au bout, mais je sais pas. J'ai pas l'impression que les hommes dans ce genre de situation sont questionnés sur leur acte. Et ça, je trouve que déjà, c'est très, très problématique.
Mais bon, je pense si... Alors, je suis désolé, on parle du documentaire, mais je pense que c'est très, très, très difficile. Parce que moi, je pense que Jürgen Schaffleschner, il a cherché à les rencontrer, mais qu'il n'a pas réussi. C'est moi qui le dis. Hein. Mais bon, c'est un anthropologue qui connaît bien son métier. Si vous voulez, je peux pas penser qu'il n'a pas essayé de les rencontrer. Mais je sais pas si vous avez vu la partie où il interroge Mian Mitou. Mais c'est là où aussi on voit la limite de l'exercice. Parce que donc il lui demande, bah il dit non, 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 voilà. Et puis bon, bah d'accord. De toute façon, d'un autre côté, si c'est le cas, il le reconnaîtra pas auprès d'un anthropologue autrichien. Donc il y a cette limitation. Mais en même temps, une fois encore, qui montre la très grande complexité de ces questions.
Oui, je suis d'accord. Moi, j'apprécie de toute façon le travail de recherche et d'études qui est mené. Mais ce que je trouve, moi, dangereux aussi dans ce genre d'approche, c'est que en voulant s'intéresser à une question et en la présentant de cette manière-là, malheureusement, on tombe dans des biais. Parce que la manière dont tu présentes les choses, du coup, on va réduire la conversion à des cas forcés. Alors que ce n'est pas forcément, du coup, comme on l'a dit, des cas forcés. Et je pense qu'il y a aussi, par exemple, moi, tout ce que vous avez dit, ça me fait penser que le Pakistan, c'est un pays à majorité musulmane. Donc j'imagine, moi, en tant que minorité, vivre dans ce pays-là, en fait, tout l'environnement fait que c'est imprégné par l'islam, du coup. Peu importe, du coup, si c'est chiite ou pas. Et je me dis que, du coup, forcément, ces personnes-là, avec le temps, pourraient être mieux acceptées, pourraient être mieux intégrées, parce qu'elles vivent là. Au bout d'un moment, elles se convertissent. Et il y a tout ce travail aussi, finalement, psychologique, tous ces enjeux-là. Et donc, voilà, je trouve ça dommage de présenter, du coup, les choses de cette manière-là, parce que, à mon avis, pour un lecteur qui ne connaît pas du tout la question, il peut, du coup, être influencé seulement dans une seule direction. Et s'il ne fait pas l'effort de faire les recherches ou aussi, voilà, de causer plus loin... Malheureusement, on tombe dans des biais, alors que c'est pas du tout le but de la recherche en général.
Ouais. Non, mais oui, vous avez raison. Et de toute façon, Ghulam Hussein, lui, c'est justement sa thèse, à la limite qu'on parle que de ça. Mais bon, là encore, si vous êtes franco-pakistanaise, vous savez mieux que moi que c'est quand même un terrain très miné et que donc c'est aussi très compliqué parce qu'il y a toute la pression. Là, je suis pas entré dans les détails des partis islamistes, quoi, qui ne voulaient pas entendre parler. Et je suis pas entré dans les détails que vous devez connaître des tractations politiques qu'il y a eu parce qu'en 2019, après à nouveau, le ministre des droits de l'homme du gouvernement pakistanais a voulu présenter la loi devant le parlement pakistanais. Donc c'est, finalement, ça a été rejeté dans le signe, mais elle est pas passée non plus, hein. Et là encore, parce que les religieux ont commencé à dire qu'ils allaient mettre une pression pas possible. Et donc, il y a aussi ce contexte de pression, bien sûr.
Merci. Une autre question ?
Oui, moi je voulais juste une ouverture, du coup, pour qu'est-ce qui est disponible comme littérature qu'on peut prendre. Par exemple, j'ai noté ce que vous avez, les références que vous avez données, mais plus que ça, et par exemple, si l'Institut fait des recherches, comment nous on peut s'impliquer ? Parce que du coup, on comprend la langue, on comprend.
Oui, alors la question de la bibliographie, j'y ai pensé. Alors je ne sais pas comment on veut faire. Moi, je peux vous transmettre une bibliographie.
Oui, vous écrivez à l'ISM, et nous, on fait le lien entre vous et nous. Donc, communication.ism@ehess.fr. Alors, je voudrais, s'il n'y a pas d'autres questions, vous en poser deux questions, si vous permettez, pour clore cet échange vraiment très très riche. Je vous remercie d'avoir participé. Du point de vue juridico-religieux, j'ai une interrogation sur le fait d'avoir qualifié, de manière rétrospective, je pense, les hindous et les bouddhistes de Ahl al-Kitab, donc de Dinmi, à partir du XIIIe siècle, en disant que c'est remonté bien avant, mais en fait c'est dans l'ouvrage du XIIIe siècle que vous avez cité que c'est indiqué. Mais revenons pas là-dessus, c'est surtout sur la conséquence. Et le fait justement, dans le cadre d'un mariage, demander à la femme de se convertir, qu'elle le veuille ou qu'elle, surtout quand elle ne le veut pas d'ailleurs, puisque justement, dans le monde arabe par exemple, lorsque un musulman se marie avec une Ahl Kitab, et elle n'a pas besoin de se convertir puisque la religion passe, se transmet par l'homme. Donc ça signifie peut-être qu'il y a toujours une interrogation sur mais quel est le statut de ces hindous et de ces bouddhistes ? Est-ce qu'ils sont vraiment des Ahl Kitab ? Et au fond, comment on l'a justifié théologiquement, le fait qu'ils étaient des Ahl Kitab ? Donc ça, c'est une double question. J'en ai une autre après, si on a un peu de temps.
Alors, pour, en tout cas, la période médiévale, je pense que les historiens arabes du IXe siècle déjà l'ont écrit. Et donc, ils avaient été considérés comme Ahl Kitab. Mais là, j'avoue que dans la période contemporaine, et pendant que vous posiez la question, je m'interrogeais également, j'avoue que ça serait intéressant de voir quelqu'un comme Maududi, comment, je ne sais même pas s'il parle de cette question déjà, par exemple, dans tous ses écrits, donc qui est le fondateur de la Jamaat Islami, bien sûr. Et là, j'avoue personnellement que je n'ai pas la réponse, en tout cas, sur cette question de comment les hindous, en particulier, et les chrétiens, seraient considérés du point de vue juridique. Mais il y a aussi un élément qu'il faut savoir, et en particulier dans le Sindh, c'est que, quand ces affaires dans la dernière période, la récente, ont commencé, donc disons à partir des années 2000, seul le mariage musulman avait un statut juridique. Et un des prétextes de musulmans qui kidnappaient des femmes hindoues, c'est qu'elles pouvaient être déjà mariées. Mais le mariage hindou n'était pas reconnu juridiquement. Et cette fois, l'Assemblée provinciale du Sindh a fait passer une loi en 2016 où donc maintenant il y a un statut officiel pour le mariage hindou et autres, d'ailleurs Sikh, Jain, etc.
D'accord, donc ça c'est un changement légal important. Oui,
dans le Sindh seulement.
Oui, très, très important. Du point de vue par exemple des Hazaris, des étudiants ou des oulémas d'El-Azhar, à l'heure actuelle, quand j'en interroge certains, c'est absolument impensable de qualifier les hindous ou les bouddhistes de Al-Kitab. Donc pour eux, c'est inimaginable de les considérer comme ça. Et je sais qu'en Indonésie, où ils ont été considérés comme tels, il y a des débats entre ulémas pour dire est-ce qu'on les maintient dans la catégorie ou pas. Donc c'est vraiment une question absolument cruciale du fait des conséquences que ça peut avoir, notamment en matière de mariage. et donc de transmission de la religion dans la descendance. Ce sont des enjeux démographiques et démographico-religieux qui sont tout à fait considérables. La deuxième question concerne la manière dont Said Ahmed Khan, à la fin du XIXe siècle, s'est pensé comme minoritaire dans un monde majoritairement hindou qui ne serait plus dirigé par des musulmans. Et quand on lit les textes de Said Ahmed Khan, qui est quand même un des inspirateurs pour certains de ce qui est devenu par la suite le Pakistan, et qui est vu comme une référence par certains Pakistanais en tout cas, c'était inimaginable, ou il valait mieux en tout cas la proximité avec les Britanniques qu'avec les Britanniques non hindous, non chrétiens, qu'avec les hindous. Est-ce que ça, c'est quelque chose que vous percevez, c'est-à-dire une plus grande proximité avec les Britanniques, même s'ils sont les colonisateurs et les dominants de l'époque, plutôt qu'avec les hindous? Et donc, ça dit quelque chose de la manière, là encore, de penser l'hindouisme en tant que musulman, c'est-à-dire de le penser dans la représentation du temps, de le penser dans l'économie des religions, de le penser dans la succession des révélations, toujours selon un discours traditionnel musulman. Parce que tout à l'heure, vous avez parlé du discours missionnaire chrétien sur ces religions, mais aussi un discours musulman sur les religions de la Jahiliya, quoi. Si on ne les inclut pas précisément dans l'économie, dans une succession des révélations. Donc j'aimerais vous entendre un peu là-dessus.
Oui, alors juste, c'est peut-être une digression, mais en tout cas dans les tazkiras qu'on trouve dans le Sindh, en ourdou, en sindhi, très souvent les hindous, ils sont appelés mulhid. D'accord. Voilà.
C'est un qualificatif extrêmement violent. Hein.
Oui, mais même les ismaïlis peuvent être qualifiés ainsi. En tout cas, dans les traités du Moyen-Âge, ils étaient couramment qualifiés comme ça. Et pour Said Ahmed Khan, Said Ahmed Khan, il y a un peu le discours de la, comment dire, sur le déclassement des musulmans, en particulier quand les Britanniques suppriment l'empire moghol en 1857. Et je crois que finalement, étant aussi très impressionné par la puissance britannique, donc il a pensé que fallait prendre des Britanniques ce qui pouvait servir aux musulmans à redevenir compétitifs. Et donc c'était principalement le programme d'Aligarh, contrairement à, par exemple, à Deoband, où là on se recentrait totalement justement sur l'héritage, sur l'héritage islamique. Mais, donc c'est bon, faut évidemment, c'est un peu enfoncer une porte ouverte, mais bien situer ce discours de Said Ahmed Khan dans la perspective historique, donc de la perte définitive, j'allais dire, du pouvoir par les musulmans. Parce que sinon, parce que là, même si Said Ahmed Khan, il peut être considéré comme un des points de départ de ce qui deviendra le nationalisme musulman, bon, la création de la Ligue musulmane et autres, bon, il y a aussi un cheminement qui est relativement long, hein, et il y a beaucoup aussi de personnages. Il y en a un autre qui est moins connu, c'est Saïd Amir Ali, qui était aussi un juriste de formation, bon, qui voyait également les choses comme Said Ahmed Khan, c'est-à-dire prendre des Britanniques, finalement, ce qui peut servir aux musulmans. Mais bon, il n'avait pas non plus un discours, j'allais dire, anti-hindou, en tout cas à la fin du 19e et au début du 20e siècle. Bon, et là encore, il faudrait revenir sur les circonstances de la création de la Ligue musulmane, de ce qu'elle était au début. D'ailleurs, l'Aga Khan était le premier président, etc. Bon. Donc ça, j'allais dire, ça a pris du temps pour que ça devienne finalement la demande pour la création du Pakistan.
Oui, il ne faut pas avoir une perspective téléologique. Hein,
voilà, exactement.
Oui, tout à fait d'accord. Merci beaucoup.
Je vous en
prie. Vous aviez une ultime...
C'était juste par rapport au terme que vous avez utilisé.
le terme que vous avez
utilisé. Ah oui, mulhid, la traduction.
Pour savoir, oui, plus de détails. Mulhid.
Étymologiquement, ilhad, c'est ilhad. Le détournement, mais ça sert aujourd'hui à qualifier les athées, par exemple, donc ceux qui n'ont pas de croyance. Donc c'est une disqualification extrêmement grave, hein, parce que le fait de ne pas avoir de croyance est la pire des choses, du point de vue de ceux qui emploient ce terme-là. D'accord. Mais étymologiquement, ça veut dire ce qui est détourné, donc une déviance profonde.
C'est malheureux qu'il n'y ait pas plus de public. Hein.
C'est une question de vocabulaire aussi, parce que depuis le début, je me demande comment on dit en ourdou « convertir » et « conversion forcée ».
Oui. Mademoiselle.
Moi, je dirais que c'est le mot anglais qu'on utilise, que c'est qu'on convert, karna. Donc, qu'on convert, ou qu'est-ce qu'il y a, mazhab madalia. Mazhab badalna. Mazhab badalna, changer de religion.
Oui, parce qu'en fait, c'était des. Là, toujours le problème du mot conversion, c'est qu'il n'y a pas exactement des équivalents.
En utilisant cette expression, c'est plutôt changer de communauté, hein. Ça veut dire bien, on se pense collectivement et on change de groupe et d'école, ou d'école de pensée, ou d'école. Mais c'est. D'accord.
Oui. Majbouri, oui. Ouais.
Merci encore pour cette participation, cette très très belle conférence, et je ne l'ai pas dit tout à l'heure, mais extrêmement bien illustrée, hein, des cartes que j'aimerais bien avoir dans mon propre ordinateur pour me remémorer et mieux saisir ce qui se joue. Je vous annonce juste la prochaine conférence qui aura lieu ici même le 7 février sur le sujet suivant, convertir les musulmans au catholicisme dans l'entre-deux-guerres, mission impossible. Elle sera donnée par Wassila Saïdia, qui est spécialiste de l'Algérie pendant la période coloniale. Et donc, vous voyez que nous allons nous déplacer, inverser un peu les regards. Nous avons parlé de différents types de communautés, ce qui donne toute la richesse, je l'espère, au programme que nous vous proposons. Et nous vous invitons à venir nombreux en sollicitant vos camarades. Merci encore Michel Boivin pour ce très beau moment.